Alors, c'est pourquoi, au total, la Cour de cassation juge, alors vraiment en termes d'une jurisprudence constante, qu'un pourvoi ne peut pas reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen pris de la nullité du jugement déféré. La critique du jugement est en effet inopérante, puisqu'en raison de l'effet dévolutif, l'appel défère de toute façon à la Cour d'appel la connaissance de l'affaire elle-même. Alors, est-ce pourtant à dire que l'appelant pourrait se dispenser de critiquer le raisonnement du premier juge? C'est un point qu'on a évoqué ce matin déjà. Eh bien, plusieurs considérations paraissent en effet conduire à cette conclusion. D'abord, il faut observer que les textes qui régissent précisément, très précisément, dit-on, le contenu des conclusions d'appel n'imposent pas que leur auteur soit tenu de critiquer les motifs du jugement attaqué. Il n'est pas interdit de se contenter de réitérer les moyens soumis au premier juge. On ne peut pas se référer à ses premières conclusions, hein, bien sûr. Et c'est même logique si un débat a réellement eu lieu en première instance. Il n'y a rien à ajouter, finalement, à ce qui a été débattu devant le premier juge, lequel a retenu l'une des deux thèses en présence. Évidemment, rien n'interdirait au pouvoir réglementaire. Hein, ça va sans dire de faire évoluer à cet égard les exigences pesant sur les parties. Mais tant que l'appel demeure une voie de réformation, de telles charges procédurales imposées aux parties, à l'appelant en l'occurrence, ne seraient que contingentes. Hein. Il ne s'agit pas d'une nécessité de critique. Second élément qui permet d'accréditer la thèse qu'il n'y a pas lieu spécialement de critiquer le raisonnement du premier juge, la Cour d'appel peut être saisie de nouveaux moyens, de fait comme de droit, de nouveaux moyens qui découlent notamment de circonstances nouvelles. Mais pas seulement. La présentation d'un moyen nouveau n'est pas du tout conditionnée par l'article 563 du Code de procédure civile à la survenance d'une circonstance nouvelle, aujourd'hui en tout cas. Hein, ce qui est à relier avec la conception que la Cour de cassation a retenue de la cause de la demande dans la détermination de l'autorité de la chose jugée. Et cette conception, d'ailleurs, justifie de considérer, comme le fait l'article 565 du Code de procédure civile, qu'une demande n'est pas nouvelle, même en cas de changement de fondement juridique, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins. Hein, c'est-à-dire que finalement, il y a identité de cause, d'objet et de partie. Alors, une réserve s'impose toutefois. Bien sûr, le procès ne se rejoue pas totalement en appel. Tous les moyens qui auraient pu être soulevés en première instance ne pourront l'être en appel. Mais il ne s'agit alors pas d'un effet qui est lié à l'appel. Il s'agit d'un effet qui est lié à l'application de règles de forclusion plus générales régissant le procès dans lequel s'inscrit l'appel. Par exemple, l'interdiction de formuler une exception de procédure après avoir débattu du fond l'article 73-74 du Code de procédure civile. Au total, la Cour d'appel pourra retenir donc une solution différente de celle retenue par le premier juge, sans qu'en aucune façon cela ne procède d'une critique du raisonnement du premier juge. Cette même observation peut être faite pour ce qui est d'un aspect plus méconnu, je trouve, la couverture en cause d'appel des irrégularités sanctionnées par le premier juge. Alors, la situation donnant lieu à une nullité ou à une irrecevabilité retenue par le premier juge peut, à condition qu'elle soit régularisable, être couverte en cause d'appel avant que la Cour d'appel ne statue. Cette jurisprudence conduit par exemple à ce que la nullité de l'acte introductif d'instance en raison d'une irrégularité de fond affectant la représentation du demandeur en première instance se trouve couverte par la représentation d'un avocat de cette même partie devant la Cour d'appel. On pourrait se réjouir du libéralisme de cette jurisprudence, mais la doctrine fait observer que cette régularisation fait perdre à l'appel sa fonction de correction des erreurs commises par les juges du premier degré. Ainsi, lorsque la nullité ou l'irrecevabilité vient sanctionner un manque de diligence, par exemple un défaut de publication au fichier immobilier d'une assignation en matière immobilière, cette sanction sera en quelque sorte neutralisée par un appel. Les critiques selon lesquelles la première instance est un galop d'essai ne sont pas loin. Et pourtant, aucune réforme n'a jamais été évoquée sur ce point. Au contraire, et pour conclure sur cette question de la critique du jugement, on sait que la chancellerie ne cache pas son intention d'instaurer un principe de concentration des moyens dès la première instance, tout en souhaitant, ce qui peut apparaître paradoxal, que le juge soit tenu de relever d'office tous les moyens de droit. L'introduction de la notion de critique du jugement, si elle est pour l'instant dénuée de toute portée, me semble-t-il, pourrait donc fort bien à terme venir modifier en profondeur l'office de la Cour d'appel. À ce jour, cet office est d'autant moins cantonné au jugement critiqué qu'il porte en réalité sur le jugement de l'affaire elle-même, deuxième point que je souhaiterais évoquer. L'analyse de l'équilibre actuel des textes permet en effet de faire ce constat que la finalité de l'appel est le jugement d'une affaire, d'un litige, dans ses dimensions factuelles, c'est-à-dire la cause du litige, autant que juridique. Cette solution présente toutefois un défaut majeur, bien sûr, c'est les contours fort larges de la cause du litige. En réalité, on peut tenter de démontrer qu'en l'état du droit, Les contours du litige en cause d'appel sont plutôt étroitement circonscrits. Il faut distinguer pour ce faire trois niveaux dans la connaissance de l'affaire par la cour d'appel. Premier niveau, bien sûr, la connaissance des prétentions qui ont été préalablement jugées en première instance. C'est le cœur traditionnel de l'appel, voie de réformation. Mais cet objet est plus large car il concerne en effet, second niveau, les prétentions qui ont été soumises au premier juge, alors même qu'elles n'auraient pas été tranchées par ce juge. Enfin, troisième niveau, qui constitue là pour le coup non plus un objet incontournable de l'appel, mais un objet possible de celui-ci, qui procède alors d'une véritable évolution de la matière litigieuse, les demandes nouvelles en cause d'appel pour l'essentiel. Alors, le jugement des prétentions soumises à un premier juge, objet nécessaire de l'appel, premier point. Les articles 542 et 561 que je disais tout à l'heure mettent l'accent sur la chose jugée que l'appel aurait pour objet de remettre en cause. En réalité, d'abord, c'est moins la chose jugée qui importe que la chose décidée. On peut faire appel de certaines décisions qui n'ont pas d'autorité la chose jugée. Bon, je passe sur les détails, par exemple, l'ordonnance sur requête. Bon, mais il faut aller plus loin, et l'appel peut porter sur les prétentions soumises au premier juge, peu important que celui-ci ne les ait pas jugées, et on peut vérifier cela à plusieurs égards. Quatre points. Premier point, lorsque le jugement ne met pas fin à l'instance, l'appel du jugement mixte. Lorsqu'un appel est relevé contre les chefs d'un tel jugement tranchant une partie du principal, un appel, celui-là même ou un appel incident, peut également être dirigé contre les autres chefs purement avant dire droit de ce jugement, tel celui qui ordonne une mesure d'instruction. Et la cour d'appel ne va pas se contenter dans ces cas-là d'apprécier si le chef du jugement avant dire droit est fondé ou non. Elle pourra être amenée, dans certaines circonstances, à statuer elle-même sur le fond de la prétention. Ce n'est pas un pouvoir d'évocation dans l'ordre judiciaire, c'est un véritable effet dévolutif. Il faut dire que les demandes non examinées par le juge découlent bien souvent de l'appréciation portée par la cour d'appel sur les questions tranchées par le premier juge. On ne comprendrait pas, par exemple, que la cour d'appel qui infirme le jugement ayant retenu la responsabilité d'une personne ne puisse anéantir le chef du jugement en ordonnant une expertise pour apprécier le préjudice causé à cette personne. Mais on peut observer à l'inverse que cela conduit à ce que l'affaire soit finalement, de façon très étrange, dans une situation un peu de litispendance, instruite parallèlement devant deux juridictions, lorsque, notamment, le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire. C'est un point encore assez nébuleux, je crois, en procédure aujourd'hui. Second cas que je voulais évoquer, il concerne les demandes que le premier juge n'a pas examinées, car son jugement les rendait sans objet. Premier exemple, l'appel en garantie. A demande la condamnation de B, qui appelle en garantie C, le jugement déboute A, qui interjette appel contre B, lequel, bien évidemment, va réitérer devant la cour d'appel son appel en garantie contre C, pour le cas où l'appel de A serait accueilli. Ça ne pose aucun problème pour personne que la cour d'appel connaisse cette demande qu'on appelle un appel provoqué, d'une façon, à mon avis, qui procède d'un certain forçage, je n'insiste pas. Même chose pour la demande subsidiaire. A formule contre B une demande principale et une demande subsidiaire. Le juge accueille la demande principale et en conséquence n'examine donc pas, il n'a pas le droit de le faire, la demande subsidiaire. B relève appel de ce jugement, il ne viendrait à l'esprit de personne de retenir que A ne pourrait pas formuler à nouveau sa demande subsidiaire pour le cas où la cour d'appel infirmerait du chef ayant condamné au titre de la demande principale B. Et pourtant, A n'élève, ce faisant, aucune critique, ne formule aucune demande nouvelle. En réalité, dans ces deux cas, l'effet dévolutif confère tout simplement à la cour d'appel la connaissance des demandes qui ont été soumises au premier juge, peu importe qu'il ne les ait pas tranchées, elles ont été débattues. Et si l'on relit l'article 564 du Code de procédure civile, qui est au cœur de la prohibition des demandes nouvelles, on constate en effet que celui-ci ne prohibe que les prétentions nouvelles en appel, pas celles déjà soumises au premier juge, mais non examinées par lui. Autre cas encore, l'omission de statuer, qui était évoquée ce matin par madame. L'omission de statut fournit une belle illustration. La cour d'appel, dès lors que l'appel est recevable, va être investie de la connaissance de la requête en omission de statut, et c'est elle qui statuera sur ce que n'a pas à trancher le premier juge. Quatrième cas, les cas dans lesquels l'appel est ouvert contre un jugement qui n'a pas tranché le fond. Le jugement qui déclare une demande irrecevable, se contente d'ordonner une expertise, un sursis à statuer ou de se déclarer compétent. Dans la plupart des cas, ces appels ne vont pas conférer à la cour d'appel la connaissance du litige lui-même. Mais il peut aller autrement, et ce de deux façons. D'abord, dans le cas où la cour d'appel se voit reconnaître un pouvoir d'évocation lorsqu'elle estime de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire, article 568. Ce pouvoir discrétionnaire est remarquable puisqu'il s'agit du seul cas en procédure civile où c'est la juridiction elle-même qui se saisit du litige, ce qui démontre incidemment que l'appel est moins la mise en œuvre d'une action en justice que la poursuite de cette action devant un autre juge. Cela dit, le pouvoir d'évocation tient une place tout à fait résiduelle en procédure civile, qui a en outre été opportunément, je crois, réduite par le décret du 6 mai 2017. C'est donc en vertu de l'effet dévolutif que la Cour d'appel va connaître du fond de l'affaire dans les cas non visés par l'évocation où le jugement a mis fin à l'instance sans statuer sur le fond. Ainsi en va-t-il du jugement prononçant l'irrecevabilité des demandes. Si la Cour d'appel estime la demande recevable, elle devra la trancher. Bon, on peine à trouver une explication tout à fait satisfaisante sur les certaines lignes de partage en matière de pouvoir d'évocation qui procèdent peut-être plutôt d'ailleurs d'un oubli du codificateur, qui à mon avis n'a pas vraiment intégré les incidents d'instance autrement que comme des accidents du procès, alors que ceux-ci, tels la péremption, peuvent tout à fait justifier un débat et en conséquence constituer un moyen que la Cour d'appel va donc, dont la Cour d'appel va connaître en cas d'appel. Quoi qu'il en soit, en procédure civile, pour l'essentiel, la connaissance de l'affaire par la Cour d'appel, notamment lorsqu'elle annule le jugement, j'insiste dessus, n'est pas le fruit d'un droit d'évocation. Elle est la conséquence de la dévolution elle-même à la Cour d'appel qui doit statuer sur le litige, même si le premier juge a, par exemple, tranché le litige en violant le principe de la contradiction. Un arrêt récent l'a dit. Certes, le premier juge n'a, ce faisant, pas statué régulièrement sur le litige. On pourrait donc y voir une atteinte au double degré de juridiction qu'on évoquait ce matin. Mais on peut aussi comprendre différemment le double degré de juridiction, si je peux me permettre, comme le droit de débattre à nouveau d'une affaire devant une juridiction supérieure. C'est la position que défendait Henri Motulski, je crois. Il y a eu un premier degré de juridiction, alors il convient de passer au second. Et cette dévolution au juge d'appel va alors rendre possible la présentation d'autres prétentions qui, elles, seront alors véritablement nouvelles. C'est le dernier point que je voudrais évoquer. Les demandes nouvelles, objet possible de l'appel. L'objet de l'appel, entendu comme une instance, pourra s'étendre à d'autres questions que je qualifierais d'objets possibles, donc, de l'appel, et elles sont au nombre de, ils sont au nombre de deux, ces objets possibles. Un objet qui sera incident et un objet qui sera complémentaire. Alors, je ne m'apesantirai pas sur le premier, l'objet incident, qui consiste à traiter les incidents susceptibles d'affecter le jugement déféré. J'en dis deux mots parce que madame posait des questions ce matin dessus. Réparer les erreurs ou omissions matérielles, réparer une omission de statuer ou encore constater la caducité du jugement, autant de compétences qui sont dévolues à la Cour d'appel, dès lors en tout cas qu'il y a recevabilité de cet appel. Bon, plus importante est la question des demandes véritablement nouvelles en appel, cette fameuse voie d'achèvement du litige. Il s'agit d'une construction qui est plutôt pragmatique, car si le NCPC s'est accommodé de ce qui apparaît comme une entaille dans le principe du double degré de juridiction, c'est dans un pur objectif d'efficacité procédurale, rendu possible par l'idée de la plénitude de juridiction de la Cour d'appel. Construction pragmatique, mais formant un tout réellement cohérent avec des cas d'ouverture qui se recoupent d'ailleurs fortement. C'est pourquoi la Cour de cassation juge depuis quelques années qu'une Cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande nouvelle sans examiner la question au regard de l'ensemble des dispositions. Celles-ci n'en sont pas moins entendues strictement, ces cas d'ouverture, et ils ne sont pas tous d'ailleurs également critiqués, je crois, par les tenants d'un appel voie de pure réformation. Alors, il y a d'abord des demandes qui font plutôt consensus, des demandes nouvelles qui font plutôt consensus, j'en dis deux mots, puisqu'elles font consensus, les demandes qui découlent d'événements survenus ou révélés postérieurement au jugement. Dès lors qu'on n'est pas dans une voie d'annulation pure, nécessairement, on doit permettre de tirer les conséquences de ces éléments nouveaux. Par exemple, une jurisprudence très intéressante avait retenu que la révélation de l'insolvabilité du vendeur permettait à l'acquéreur de remanier ses prétentions en conséquence en sollicitant l'exécution de la vente plutôt que sa résolution en cause d'appel. Voilà. Bien. Autre cas qui est assez peu critiqué, l'article 566 dans sa rédaction actuelle, la connaissance des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, a-t-il été précisé, je ne sais pas encore ce que c'est, des demandes examinées, des prétentions examinées en première instance. Et à cette liste, on peut examiner aussi les demandes actualisées, l'actualisation des demandes. Bon, tout ceci ne pose pas véritablement de difficultés, je crois. En revanche, trois autres types de demandes, et je terminerai par là, bien sûr, autorisées en appel suscitent plus d'interrogations, les interventions forcées ou volontaires, et les demandes reconventionnelles. Quant aux interventions, il me semble qu'en pratique, celles ayant lieu tendent pour l'essentiel à tirer les conséquences d'une évolution de la qualité à agir ou d'une erreur affectant cette qualité en première instance. Mais il faut bien reconnaître que la jurisprudence ne réserve pas l'intervention à ces seules hypothèses. Alors, la difficulté ne concerne pas tant les interventions forcées, dont les conditions de recevabilité sont extrêmement restrictives en cause d'appel. Non, elles concernent surtout l'intervention volontaire qui est admise au profit de celui qui est titulaire d'un droit propre, ce qui paraît de nature à opérer, du coup, une importante évolution possible du litige en cause d'appel. Alors il faut dire qu'une certaine souplesse règne en la matière, car l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a souhaité renvoyer au cours d'appel le soin d'apprécier souverainement la recevabilité d'une intervention volontaire au regard de son lien suffisant avec le litige déféré à la Cour d'appel. Certes, il y aurait peut-être matière à réflexion pour faire émerger un critère plus précis, mais l'analyse de la jurisprudence antérieure, qui s'épuisait littéralement dans la mise en œuvre d'un critère d'unicité du litige aux contours insaisissables, laisse tout de même perplexe sur l'émergence d'un tel critère idéal. Alors la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles peut paraître plus simple. Tant que l'appel ne bascule pas en une voie d'annulation, il est nécessaire de permettre aux parties d'exercer librement leur droit de se défendre ou d'émettre pour ce faire, les demandes reconventionnelles qui participent à l'exercice de ce droit. On comprend en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que les demandes reconventionnelles, accrochez-vous parce que la phrase est compliquée, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur initial que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. Reconvention sur reconvention est autorisée, autrement dit. Cette jurisprudence autorise ainsi la demande reconventionnelle qui découle d'une autre demande reconventionnelle. En ce sens, une demande reconventionnelle émanant de l'appelant ne sera recevable qu'en tant qu'elle tend à se défendre contre une demande émanant de l'intimé. En revanche, un tel lien de causalité, de provocation, n'est pas exigé pour apprécier la recevabilité d'une demande reconventionnelle émanant de l'intimé en défense à l'appel. Il suffit que cette demande reconventionnelle soit unie par un lien suffisant. Bien. Pourrait-on encore resserrer, puisque tel est l'esprit actuel, l'objet de l'appel à l'effet que seules les demandes reconventionnelles, véritablement reconventionnelles, destinées à se défendre, soient déclarées recevables? Ce serait assurément intellectuellement possible. Et l'on raisonne déjà comme cela pour pas mal d'institutions, nombre de prétentions en appel. Les demandes additionnelles, je passe très vite, les demandes additionnelles dans la procédure à jour fixe, qui ne sont recevables qu'en tant qu'elles viennent répliquer aux conclusions adverses. L'appel incident, lorsqu'il est provoqué, au sens large, il doit être provoqué, donc il doit découler des autres appels précédents. Ou les demandes formulées dans les conclusions complémentaires, ça c'est le décret du 6 mai 2017 qui impose que ces nouvelles prétentions viennent nécessairement répliquer aux conclusions adverses, article 910-4 du Code de procédure civile, qui posera certainement bien des questions. Dans tous les cas, la recevabilité d'une prétention nouvelle est conditionnée à l'existence là d'un lien de causalité, la prétention devant en substance être provoquée par des conclusions adverses. Alors le concept de causalité est, à mon avis, parfaitement maîtrisé. Il pourrait ainsi permettre de resserrer les conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles, mais aussi plus généralement des prétentions nouvelles en appel, mais aussi des moyens nouveaux. Pourquoi pas ? Toutefois, nombre d'observateurs, et en particulier Madame le Président, relèvent que ce type d'exigence nouvelle qui vise à articuler tous les aspects du procès, notamment en appel, a déjà suscité des contentieux incidents qui ont alourdi et allongé le traitement de l'appel sans même évoquer le jugement de l'affaire elle-même que ce resserrement interdit de mener à bien. Alors on ne peut alors s'empêcher de songer que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir dépassé.
Nous vous remercions. Alors, vous avez donc démontré qu'en dépit de la définition donnée par le Code de procédure civile, puisque la Cour d'appel statue sur les chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant, eh bien que la Cour d'appel tranchait bien d'autres questions qui n'ont jamais été abordées dans le cadre du jugement. On voit bien que même si on fait de l'appel une voie de réformation, elle restera quand même une voie d'achèvement de l'affaire, comme vous l'avez bien indiqué. Le jugement étant le centre de l'appel, mais certainement pas le centre des débats qui vont se dérouler devant la Cour. C'est plutôt l'affaire qui est au centre des débats. Alors, on va peut-être mesurer maintenant la portée de ces remarques en droit dans le contentieux administratif.
Merci Madame la Présidente. Alors pour commencer, et une fois n'est pas coutume, puisque la dernière fois je ne l'ai pas fait à Clermont, mais à culpa, je remercie donc les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité et je voudrais aussi souligner quand même l'importance, en tout cas à mes yeux, de l'étude transversale du droit des procédures. Puisque c'est une démarche qui me tient vraiment à cœur, démarche que j'avais menée dans ma thèse et qui n'avait, pour tout dire, pas été nécessairement accueillie par tout le monde d'une manière très enthousiaste, on va dire. Voilà. Donc je suis contente aujourd'hui que cette manière de voir les choses en contentieux soit en train de... Voilà, de... Et, bref, qu'on se soit saisi en doctrine de cette manière de voir les choses en contentieux qui, je pense, permet véritablement d'enrichir la doctrine dans cette matière. Alors, à l'occasion des 50 ans des tribunaux administratifs, le président Daniel Laptoul avait livré sa vision de l'évolution de la juridiction administrative. Il disait « Il apparaîtra de plus en plus clairement que c'est devant le juge de premier ressort qu'un litige a vocation à trouver sa solution. S'accentuera ainsi, entre les composantes de l'appareil juridictionnel résultant de la loi du 31 décembre 1987, une répartition des fonctions confiant au juge de premier ressort la responsabilité principale d'assurer le règlement des litiges et partageant la fonction de contrôle entre juge d'appel et juge de cassation. » Alors, si certains membres de la juridiction administrative ont un don de prescience, et le président Laptoul a pu avoir ce don sur certains sujets, sur ce sujet-là, ça n'a pas été le cas. Et avec près de 15 ans de recul, la vision donc, qu'il exposait alors, il apparaît que cette vision ne s'est pas imposée. Bien que des réformes et des jurisprudences récentes tentent à diminuer en réalité le rôle du juge d'appel officiant comme juge du litige, l'appel conserve aujourd'hui un double objet, comme en procédure civile. Il porte d'une part sur le jugement rendu en premier ressort et d'autre part sur le litige au fond. Donc c'est vraiment l'objet de l'appel qui est ce double objet, hein, qui est le cœur de l'identité du juge d'appel. Donc cette identité du juge d'appel, elle est liée à la double finalité de l'appel qu'on a pu évoquer plusieurs fois ce matin. Donc première finalité disciplinaire, deuxième finalité corrective. Double objet, finalité disciplinaire donc pour la décision rendue par les premiers juges et finalité corrective pour le litige au fond. Alors cette dualité de l'objet de l'appel, elle a des conséquences sur ce que les appelants, quels qu'ils soient par ailleurs, peuvent demander au juge d'appel et inversement sur ce qu'ils ne peuvent pas lui demander. Donc la régularité du jugement, premier objet de l'appel, c'est un objet qui a pour caractéristique d'être entièrement nouveau en appel et donc d'offrir, parce qu'il est nouveau, une grande liberté, enfin, beaucoup plus grande liberté que pour le deuxième objet, au juge et aux parties. Donc le litige au fond, deuxième objet de l'appel, lui est beaucoup plus encadré puisqu'il il a pour caractéristique principale, à mon avis, d'être largement prédéterminé par ce qui s'est passé, ce qui a été soumis au premier juge. Alors tout d'abord, la régularité du jugement, un objet nouveau. Donc cet objet de l'appel, il est nouveau et il est toujours présent en appel. Donc c'est un objet qui n'a pas pu être tranché par les premiers juges, et c'est donc un objet exclusif de l'appel. Donc comme c'est un objet exclusif, il va relever de conclusions et de moyens spécifiques qui vont être soumis à un régime procédural particulier. Alors des conclusions et des moyens spécifiques tout d'abord. Donc le juge d'appel, il est juge du jugement, et il va permettre donc la censure d'un certain nombre d'erreurs qui vont être commises par les premiers juges. Donc les parties peuvent présenter en appel des conclusions à fin d'annulation qui vont être destinées à provoquer l'anéantissement pur et simple du jugement. Donc là, on voit que ce sont nécessairement des conclusions nouvelles. Et donc, on dit souvent en appel qu'il y a un principe d'interdiction des conclusions nouvelles. Eh bien, on voit que ce principe ne s'applique pas aux conclusions relatives au premier objet de l'appel. Alors, à l'appui de ces conclusions donc nouvelles, des moyens propres à la régularité du jugement peuvent être soulevés par les parties. Donc, ce sont là encore et nécessairement des moyens nouveaux qui se rattachent tous donc à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les autres moyens susceptibles d'être soulevés en appel. Alors, le juge d'appel est par ailleurs tenu, on le sait, de relever d'office, s'il ressort des pièces du dossier, bon, tout de même, parce que ce n'est pas au juge d'appel non plus qu'au juge de premier ressort d'aller à la pêche du moyen d'ordre public. Donc, le juge d'appel, il est tenu de relever d'office un certain nombre de moyens d'ordre public qui portent donc spécifiquement sur les irrégularités du jugement. Et donc là, ce qu'on constate, si on s'en tient à l'objet de l'appel, c'est que il y a un ordre public qui est en partie spécifique et qui figure donc dans les composantes de l'objet de l'appel. Alors, toutes les erreurs qui vont être commises par les premiers juges ne sont pas sanctionnées, bien évidemment, par l'annulation du jugement rendu. Et Camille Broyel, donc, dans son manuel, qui est vraiment très bien fait sur la question de l'appel, précise que le critère donc, retenu pour sanctionner l'irrégularité du jugement n'est pas celui de la gravité. Parce que finalement, il va y avoir des choses qui, a priori, dont on pourrait a priori penser qu'elles sont beaucoup plus graves que d'autres et qui ne vont pas entraîner l'annulation du jugement. Alors le critère n'est pas celui de la gravité. En réalité, donc, est regardé comme une irrégularité la violation d'un certain nombre de règles qui constituent, donc, selon le droit positif, des exigences élémentaires liées à la fonction de juger. Donc c'est ce qu'elle dit. Vous pouvez regarder dans le manuel de Camille Broyel et dans celui de René Chaput, bon, même s'il est plus daté, il y a donc une liste de l'ensemble de ces irrégularités dont je vous fais grâce ici. Donc ce sont des moyens et des conclusions qui se distinguent en substance des autres moyens et autres, conclusions, on verra qu'il n'y a pas de conclusion nouvelle possible, donc qui se distinguent principalement des autres moyens qui peuvent être soulevés en appel. Donc ça explique que ces conclusions et ces moyens soient soumis, c'est le grand B, à un régime procédural particulier. Alors, les moyens donc, qui vont être tirés de l'irrégularité du jugement, ils ont un régime à part, et tout d'abord, donc, ils vont être soumis à des règles d'opérance spécifiques. Donc, par exemple, une partie ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance d'une garantie procédurale si cette irrégularité n'a porté tort qu'à son adversaire. Donc, première règle d'opérance. Ensuite, ces moyens relevant d'une cause juridique distincte de celle des autres moyens pouvant être soulevés en appel, ils peuvent tous être soulevés avant l'expiration du délai d'appel. C'est-à-dire que pendant le délai d'appel, les parties peuvent faire feu de tout bois, de moyens propres à la régularité du jugement. En revanche, dès lors que le délai d'appel est dépassé, si aucun moyen de ce type n'a été soulevé, on ne peut pas, puisque c'est une cause juridique particulière, soulever de tels moyens après l'expiration du délai d'appel. Donc on voit avec ce régime procédural qu'il y a une certaine forme d'étanchéité entre les deux objets de l'appel, régularité du jugement qu'on a vu ici et litige au fond. Donc étanchéité, mais étanchéité relative, puisque premier objet et second objet conservent un lien assez fort. En effet, on le sait, si jamais la régularité du premier jugement est jugée, le jugement est jugé irrégulier, s'il est jugé comme régulier, on le sait, le juge d'appel statuera dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Et si le jugement, en revanche, est irrégulier, le juge d'appel à la possibilité, dans la plupart des cas, ou non, d'évoquer. Donc finalement, il peut y avoir une appréciation portée par le juge d'appel sur le second objet, donc le litige au fond, qui va être différente en fonction de la portée de l'évaluation du juge qui sera portée sur le premier. Donc si c'est régulier, effet dévolutif, si c'est irrégulier, évocation. En revanche, donc, on constate, que ce soit dans le cadre de l'effet dévolutif ou dans celui de l'évocation, que le second objet de l'appel, s'il faut juger ou rejuger, c'est toujours, de toute façon, le litige au fond. Et par rapport donc, au premier objet, le litige au fond a pour caractéristique, donc grand 2, d'être un objet largement prédéterminé. Donc, comme il est prédéterminé qu'il n'est pas nouveau, ça va entraîner un certain nombre de conséquences sur son régime. Alors, petite précision liminaire, et ça recoupe en partie ce qu'a dit M. Deléris, c'est que le litige, au fond, donc, c'est un objet qui n'est pas un objet toujours présent, finalement, dans le contentieux de l'appel. C'est un objet qui est, en tout cas en contentieux administratif, qui est seulement possible. Alors pourquoi ? Parce que quand le juge d'appel donc, prononce l'annulation du jugement qui est rendu en premier ressort, donc, il y a des hypothèses dans lesquelles il ne pourra pas trancher le litige au fond. Donc, première hypothèse, c'est quand les parties ne l'ont pas saisi de conclusion relative au fond du litige. Bon, c'est quand même assez rare. Et donc, quand il évoque et qu'il est saisi de conclusion au fond, il arrive, là encore c'est rare, mais il arrive qu'il choisisse de renvoyer l'affaire au premier juge et de ne pas conserver le litige. Donc, selon la formule d'Orioux, il ne termine pas lui-même le procès, il le coupe en deux. Alors, cela dit, hein, ces hypothèses où l'appel a pour unique objet la régularité du jugement initial, ce sont des hypothèses qui sont très marginales, puisque, on l'a dit à de nombreuses reprises, mais les cas d'évocation restent rares dans le cadre du contentieux de l'appel, premièrement, et deuxièmement, parce qu'il est quand même rare en appel que les parties ne saisissent pas le juge de conclusion au fond. Enfin, dernière raison pour laquelle il est rare que cet objet ne soit pas présent, c'est que quand le juge d'appel peut évoquer, eh bien, il tranche hein, le litige au fond et il ne renvoie pas ce dernier devant les premiers juges. Et dernière raison, c'est que lorsque le jugement est régulier, donc cette fois-ci dans le cadre de l'effet dévolutif, eh bien, le juge est tenu, on l'a dit hein, tout à l'heure, il est tenu de statuer dans ce litige. Donc, c'est un objet seulement possible, mais surtout, hein, la caractéristique, à mon avis, qui le différencie principalement du premier objet, c'est qu'il n'est pas nouveau à ce stade de la procédure. Alors, il n'est pas nouveau, et le principe d'immutabilité du litige donc prédétermine très largement cet objet, ce qui assure une garantie donc de plus en plus stricte du double degré de juridiction. Donc, ça sera le premier temps du raisonnement. Garantie de plus en plus stricte, garantie étriquée même, on pourrait dire aujourd'hui, garantie étriquée qui cède pourtant parfois dans des hypothèses, donc au nom d'une exigence de réalisme que connaît bien le juge administratif. Alors, une garantie stricte du double degré de juridiction. Donc, la doctrine administrativiste, hein, depuis plus d'un siècle, est d'accord pour dire que, finalement, l'office normal du juge d'appel, c'est bien de procéder à ce rejugement de l'affaire après un premier examen par la juridiction de première instance. Donc c'est son office normal, c'est bien là encore ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'arrive pas à faire du juge d'appel un simple juge de la régularité du jugement. Donc le cœur de son office, bon là on n'a pas l'équivalent du code de procédure civile, mais bon on aurait pu, enfin certains ont cherché du moins à en faire un juge unique de la régularité du jugement, bon, ça ne fonctionne pas, il garde hein, ce cœur de métier qui est de trancher le litige. Alors, juger ou rejuger, hein, selon les cas, parfois auprès d'une fiction, mais dans un cas toutefois restreint, puisque, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, l'appel n'est pas une session de rattrapage pour les parties. Et donc, juger ou rejuger, tout dépend en réalité de ce qui a été soumis au juge du fond. Alors d'abord, le juge d'appel statue sur le même litige. Donc, sauf exception, les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables. Et là, c'est valable, hein, que ce soit dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif. Donc, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Et les moyens, on va voir hein, dans quel cadre de nouveaux moyens peuvent être soulevés. Donc, ils statuent sur le même litige, ça renvoie aux mêmes conclusions, et ils statuent en principe sur les mêmes prétentions. Alors, ça renvoie donc à la question de savoir si en appel on peut soulever des moyens nouveaux par rapport à ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges. Alors là, la restriction ne se fait pas tant au niveau du moyen en tant que tel, mais au niveau de la cause juridique, donc l'égalité interne ou externe principalement. Et donc j'insiste juste sur, ça c'est très classique, j'insiste sur le débat actuel donc Madame la Présidente a évoqué tout à l'heure, sur la question de la cristallisation des moyens nouveaux en appel. Donc actuellement, on a une jurisprudence divergente entre plusieurs cours administratives d'appel, notamment celle de Lyon et celle de Bordeaux. Donc à Lyon, on est plutôt favorable aux requérants, à Bordeaux, plutôt pas trop. Donc, pour schématiser, hein, mais bon, c'est à peu près de ça dont il est question. Donc, alors, le débat en jurisprudence, c'était relatif donc, à l'ancienne version de la disposition en matière de cristallisation applicable uniquement en matière de droit de l'urbanisme, c'est-à-dire, en gros, possibilité pour le juge de cristalliser sur demande des parties et au-delà donc, de la date fixée par le juge, pas de possibilité de soulever des moyens nouveaux. Bon, donc ça, ça a été étendu à l'ensemble du contentieux et puis récemment modifié encore en matière d'urbanisme. Bon. Mais le problème qui se pose et qui est un problème très important, c'est de savoir si cette cristallisation, bon, qui est galopante hein, en contentieux administratif, donc est-ce que quand le premier juge cristallise à une certaine date, eh bien, ça interdit tout simplement aux parties en appel de soulever des moyens nouveaux. Autrement dit, est-ce que la cristallisation qui est prononcée en première instance fige à ce moment-là totalement, y compris en ce qui concerne les moyens, le litige ? Bon, c'est ça la question. Alors, il y a trois positions, trois réponses possibles. Non, ça ne fige pas le litige. Et donc, comme l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure, et c'est ce qui vraisemblablement s'applique maintenant pour la nouvelle disposition du Code de l'urbanisme, c'est non, ça ne fige pas le litige, donc la cristallisation, entre guillemets, repart en appel. Donc, le juge d'appel a lui aussi un pouvoir de cristallisation. Donc, non. Oui, ça le fige totalement. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a une date. Il y a eu une date par les premiers juges fixée au-delà de laquelle vous ne pouviez plus soulever de moyens. Donc, désolé, mais c'est fini. Et c'est fini, y compris devant moi, juge d'appel, et peu importe le délai d'appel, peu importe tout ça. Et il y a la troisième position, donc, qui est la position. Alors, je trouve très difficilement. Je ne comprends pas cette solution, mais bon, peut-être on pourra en discuter. Donc, la solution de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui consiste à dire, attention, donc c'est. Cristallisation en première instance, moyen soulevé après la date fixée par le juge, donc je ne sais plus ce que c'était, mais bon, voilà, moyen soulevé après la date fixée par le juge, donc moyen rejeté, irrecevable pour tardiveté. Et donc la Cour administrative d'appel de Bordeaux me dit, ces moyens-là qui ont été rejetés pour tardiveté devant les premiers juges, parce que après, présentés après la date de cristallisation, ne peuvent plus du tout être soulevés en appel. Donc, en revanche, les autres moyens, oui. Alors, c'est bizarre parce que c'est une espèce de prime aux moyens non soulevés devant les premiers juges. Donc, je ne comprends pas la justification ni théorique ni pratique, en fait, de cette jurisprudence. Je pense qu'il fallait soit être plus, entre guillemets, courageux et consacrer la solution proposée par le rapporteur public, soit être favorable au requérant et donc ne pas faire le jeu de la cristallisation, je pense, en appel. Voilà, donc c'est le débat actuel hein, sur la question des moyens nouveaux. C'est un débat qui est extrêmement important parce que si jamais, il faut espérer, là ça crée quand même des inégalités entre les requérants devant les cours administratives d'appel qui n'ont pas des jurisprudences similaires, parce que la Cour administrative d'appel de Lyon, elle, juge qu'il n'y a pas de cristallisation, enfin que la cristallisation ne perdure pas en appel. Donc, tout dépendra peut-être de ce que dira à terme le Conseil d'État. D'un point de vue personnellement, et étant plutôt pour la défense des intérêts des requérants dans le procès administratif, je pense qu'il serait préférable que la cristallisation des moyens ne perdure pas en appel. Mais voilà, ça, en tout cas, il y a un enjeu énorme ici parce que ça transformerait véritablement l'appel. Ça le concentrerait vers son premier objet, là. En tout cas, régularité du jugement, ou en tout cas, jugement tellement figé, en fait, en premier ressort, que ça serait une conception vraiment très, très, très étriquée du double degré de juridiction. En tout cas, je trouve trop. Alors, si on fait un peu de prospection, il est vraisemblable que le Conseil d'État, à mon avis, va suivre quand même la position de la Cour administrative d'appel de Lyon et non pas de Bordeaux, donc on verra. Alors, si on prend la jurisprudence du Conseil d'État, la jurisprudence récente, on peut se dire qu'il va nous faire une petite consécration empire de ce qu'a fait la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Mais si on garde à l'idée quand même que le Conseil d'État s'est aussi beaucoup construit en tant que juge d'appel, je pense qu'il ne va pas faire ça. Voilà. Mais est-ce qu'il va se rappeler de son passé ? C'est pas sûr. Et comme globalement la tendance est à la restriction de l'invocabilité des moyens en contentieux, voilà, est-ce qu'il va faire du CFDT version appel ou est-ce qu'il va se dire mais moi j'étais juge d'appel et je pouvais faire plein de choses, donc ça serait bien que ça continue comme ça. On verra, sachant qu'il est lui-même juge d'appel quand même encore dans certains contentieux, donc est-ce que ça ne va pas jouer ? Bon, à voir, n'ayant pas moi non plus le don de préscience et de prédiction de l'avenir, je ne me risquerai pas à une prédiction arrêtée. Voilà. Mais je pense quand même qu'il ne va pas consacrer la solution de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Donc ça, c'est le débat actuel. Et j'en termine simplement avec l'idée aussi que ce qui me fait penser que le Conseil d'État ne va pas faire ça, c'est qu'en réalité, au nom d'un principe de réalisme, l'immutabilité du litige peut être dépassée devant le juge d'appel. Donc il y a la possibilité de soulever des conclusions nouvelles, notamment en matière indemnitaire, c'est pareil qu'en procédure civile, quand le préjudice a évolué entre le premier jugement et puis le moment où on va devant le juge d'appel. J'insiste pas, c'est dans tous les manuels et c'est une jurisprudence bien acquise. Et puis on peut aussi relever, on peut soulever des moyens relevant d'une cause juridique nouvelle. Ça arrive donc notamment en matière de contentieux contractuel, quand les parties se sont situées sur le terrain contractuel en première instance et que le juge a déclaré l'annulité. Bon, maintenant, on parlerait d'annulation du contrat. Donc, en appel, il faut bien se placer sur un terrain extra-contractuel qui, par définition, était exclu, ou en tout cas pas évident en première instance. Donc, on admet ces moyens relevant d'une cause juridique nouvelle. Voilà, donc toutes ces dérogations-là qui existent depuis longtemps, elles permettent une conception relativement souple du second objet de l'appel et elles ancrent davantage le juge d'appel dans son rôle de juge du litige. Donc les évolutions récentes relatives à la permanence de la cristallisation des moyens en appel, elles tendent à diminuer ce rôle et vraiment littéralement à pétrifier le second objet de l'appel devant les premiers juges. Et on peut conclure en disant que si l'objet de l'appel définit l'identité du juge d'appel, eh bien, ce dernier apparaît encore aujourd'hui en quête de cette identité.
Bien, alors nous vous remercions bien sûr pour ces perspectives finalement, parce que je me demandais si les privatistes n'auraient pas intérêt à assurer un fabuleux destin à la cristallisation, parce que nous essayons avec notre principe de concentration temporelle seulement en appel, puisque la dernière réforme oblige les parties en appel à concentrer leurs prétentions sur le fond dans leur première conclusion, donc dans le délai de 3 mois ou d'un mois selon la nature du préjudice. Alors nous on parle de principe de concentration, mais ça ne vise pas les moyens, ça vise les prétentions sur le fond. Mais je suis sûre que nos autorités seraient ravies de pouvoir cristalliser le litige dès la première instance. Et finalement, à l'aune d'un autre vocabulaire et d'autres enjeux, on retrouve finalement les mêmes objectifs, c'est-à-dire éventuellement de faire en sorte que tout soit évoqué assez rapidement devant un juge, sans éventuelle possibilité de remettre, d'ouvrir sur d'autres moyens devant le juge d'appel. Vous en restez pétrifié, oui, après avoir été cristallisé, on peut rester pétrifié, oui, tout à fait. Bien, un petit débat, des questions, si après toutes ces comparaisons très intéressantes, oui.
Moi, j'avais une observation qui pourrait devenir une question pour M. Deléris. En entendant les propos d'Olga Mahmoudi sur la cristallisation et aussi sur la possibilité de soulever de moyens nouveaux ou des conclusions nouvelles en appel, son propos était articulé autour d'un critère de tri qui reposait sur la distinction entre les causes juridiques, l'égalité interne, l'égalité externe, vous dit, distinction qui, il me semble, est relativement ignorée de la procédure civile et qui, de surcroît, est très marqué par notre excès de pouvoir et notre contrôle de l'égalité des actes, qui est encore plus ignoré de la procédure civile, puisque quand on pense cause juridique, on pense l'égalité interne, externe, qui sont des canons de pensée totalement intransposables à la procédure civile. Qu'est-ce qui pourrait, c'est là que ça devient une question, qu'est-ce qui pourrait être transposable dans les canons de la procédure civile à cette séparation entre causes juridiques qui permettent de regrouper ou de soulever des moyens qui n'avaient pas été abordés en première instance, mais qui peuvent, parce qu'ils se rattachent à une cause juridique qui a déjà été abordée, revenir sur le débat, enfin revenir dans le débat dans le cadre de l'appel. Est-ce qu'il y a des mécanismes de rattrapage comparables en procédure civile? Vous avez parlé des conclusions, du caractère accessoire des conclusions. Alors là, la cause juridique permet de sauver des moyens et pas des conclusions. Mais voilà, ma question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de comparable à la distinction des causes juridiques?
Alors j'ai l'impression qu'on parle de vraiment, effectivement, là on parle un langage juridique très
totalement
différent.
Hein, totalement
différent. ce qui fait que vraiment, effectivement, je pense que les deux grandes différences qu'on a pu mettre en évidence, c'est la première, le fait que l'annulation n'a pas d'effet différent, l'annulation du jugement n'a pas d'effet différent par rapport à l'infirmation de celui-ci dans l'ordre judiciaire civil. Hein, donc ça, c'est une première différence, puisqu'il n'y a pas d'évocation en cas d'annulation et de réformation en cas d'infirmation. Hein, et donc, a fortiori, il n'y a pas de distinguo entre une légalité interne et externe, puisque finalement, ce qu'on pourrait dire, la légalité externe serait l'annulation et l'interne, la motivation. Donc, ce n'est pas du tout la logique, puisque vraiment, la logique de l'ordre judiciaire est une logique consistant à mettre totalement de côté cette question de la nullité, finalement. Donc, c'est la première différence. Et la deuxième différence qu'on a vue aussi, c'est finalement cette liberté de présentation des moyens. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on part de tellement loin là, de ce point de vue-là, que je ne suis pas sûr qu'on arriverait. Alors, intellectuellement, je pense qu'on peut faire beaucoup de cheminement pour se rapprocher, hein, mais on part vraiment d'un système vraiment fondamentalement différent, et peut-être aussi parce qu'il y a une immense diversité, j'ai pas insisté dessus, hein, des affaires dans l'ordre judiciaire, des affaires à deux parties, des affaires à plein de parties, des affaires familiales, et je pense que cette diversité rend plus difficile, je pense, cette conceptualisation extrême et très intéressante qui existe du coup dans la procédure administrative peut-être.
Dans le prolongement de ce que vous dites, qui pourrait aussi justifier cet grand écart, parce qu'on part de mondes totalement différents, c'est aussi la nature même des conclusions. Parce qu'on raisonne de manière abstraite depuis ce matin en parlant de recevabilité des moyens, des conclusions. Mais c'est quoi des conclusions en matière civile, ou c'est quoi des conclusions en matière administrative? Les objets peuvent être profondément différents. Alors il y a des points communs, parce qu'il y a quand même du contentieux de la responsabilité.
Oui, je pense qu'on pourrait faire un rapprochement.
Voilà, c'est là qu'on pourrait
faire le contentieux de la responsabilité ou contentieux
ou contractuel.
Parce que là, on aurait, à mon avis, même s'il y a l'administration qui vient, qui change un peu la donne, entre guillemets, du litige, mais je pense que sur les moyens, ou éventuellement sur les conclusions, on doit avoir des choses comparables. C'est sûr que l'excès de pouvoir, là, est... Bon. Mais en tout cas, dans les exceptions, par exemple, sur la cause juridique, je pense que c'est significatif, c'est que dans le contentieux contractuel. Dans l'excès de pouvoir, on ne va jamais admettre en appel que quelqu'un vienne soulever de la légalité externe si, devant les premiers juges, il a fait que de la légalité interne, par exemple. Bon, encore moins aujourd'hui.
Alors qu'en procédure civile, en appel, on peut complètement modifier le fondement juridique de sa prétention, tant que si les demandes tendent aux mêmes fins, hein, c'est ce que vous avez précisé, c'est-à-dire obtenir une réparation, on peut passer du contractuel au délictuel en appel. Ça ne soulève aucune difficulté. Donc c'est vraiment je pense que les enjeux sont tellement différents qu'on a même du mal à trouver des dénominateurs communs. Le plus petit dénominateur commun est déjà compliqué, parce que chez nous, le mot conclusion n'a pas du tout le même sens. Nous, développer des conclusions nouvelles en appel, on ignore, le code de procédure ignore. Les conclusions, c'est l'élément formel, c'est l'acte de procédure, c'est le concept générique, mais à l'intérieur, ce qui compte sont les prétentions qu'on émet. Donc ça, on a déjà des difficultés à suivre la terminologie en comparatif. Mais c'est très bien que ce type de colloque, justement, puisse mettre en évidence les différences pour essayer de raisonner sur les convergences, justement.
D'abord, je remercie M. Delaris. Vous avez répondu à mes questions. Vous m'avez éclairci donc l'ambiguïté que j'avais le matin sur certaines demandes et leur recevabilité selon qu'on se place. Merci à vous. Par ailleurs, j'aimerais donc revenir au principe de double de degré, en fait, le double degré de juridiction. En matière, lorsqu'il s'agit par exemple de jugements de compétence ou des jugements. En fait, le procès, il a été traité au niveau de premier degré. L'échange, le débat, tout est fait. Par contre, l'affaire n'a pas été tranchée dans le fond. Est-ce que le juge français le juge d'appel français est habilité par un texte légal franc de se saisir de l'affaire directement et de trancher, ou bien il est dans l'obligation, par respect du principe de double, de double degré, de renvoyer l'affaire vers le premier degré, rien que parce que le juge du premier degré n'a pas tranché. Alors que l'affaire était discutée, il y a tout. Alors on considère que le dossier est prêt à être jugé, sauf qu'il ne l'a pas été pour un problème d'incompétence ou d'irrecevabilité qui a été rectifié au niveau du deuxième degré. Voilà, c'est ma question.
Oui, alors, en quelques mots sur ce point, qui n'a pas évolué en réalité, quoique la matière de la compétence a été totalement réformée par le décret du 6 mai 2017. Sur le schéma, par contre, on est toujours sur le même schéma, c'est-à-dire si le juge a statué et sur la compétence, a retenu sa compétence et a statué au fond, un appel sera possible sur la totalité des questions. Et si jamais la Cour d'appel estime que l'affaire ne relève pas de la juridiction qui a statué, elle connaîtra quand même du litige chez les cours d'appel relativement à la juridiction qui a rendu cette décision. Et dans l'hypothèse inverse où la juridiction a simplement statué sur la compétence, qu'elle ait ou non retenu sa compétence, dans ces cas-là, on sera dans une logique d'évocation, donc laissée à la faculté discrétionnaire, et cette question très intéressante, comment peut-on laisser à la discrétion d'une juridiction le soin de définir l'étendue de sa saisine, ça laissera donc à la cour d'appel le soin d'évoquer ou non le fond de l'affaire. Voilà.
Elle peut,
mais elle ne doit pas s'il n'y a eu qu'une décision sur la compétence. Et sous réserve, je passe sur les détails, qu'elle soit juridiction d'appel, etc. Voilà, de la juridiction qui est estimée compétente. Voilà.
Si elle estime d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, dans ces cas-là, elle évoque. Oui. Et parfois, d'ailleurs, c'est même l'appelant qui appelle du chef de la compétence qui demande à ce que la Cour évoque parce qu'il voudrait un arrêt dans un délai raisonnable. Mmh. Un arrêt qui l'aura privé lui-même du double degré de juridiction puisqu'il n'y aura pas eu de solution au fond au premier degré. Mais de temps en temps, il vaut mieux une solution rapide et définitive, j'allais dire, sur le fond en tout cas, quoique la Cour de cassation peut aussi statuer au fond depuis quelque temps. Mais disons que c'est lui qui va demander une solution dans un délai qu'il estime approprié à ses intérêts.
Je rebondis, c'est effectivement un des paradoxes qu'on peut souligner. La Cour de cassation peut désormais évoquer, mais on souhaiterait que les cours d'appel puissent de moins en moins connaître de questions de fond. C'est quand même un paradoxe intéressant à souligner ces dernières années.
Cette fois-ci, je m'adresse donc au... parce que le droit administratif, donc mes connaissances sont très modestes en la matière. Donc,
sur l'appel.
Je sais que dans certaines législations, on oblige, pour éviter ce genre de questions-là, on oblige en fait le juge de trancher par jugement séparé les questions de compétence. Et comme ça, on évite totalement, donc, dans un délai très court, donc il faut qu'ils se disent qu'ils tranchent cette question avant de voir le fond, ce qui permet évidemment d'avoir un jugement séparé en matière de compétences ou de recevabilité, un jugement séparé avant d'examiner le fond et de renvoyer l'affaire, ce qui permet de la traiter, d'avoir en fait, de solutionner cette question et puis de passer directement au fond qui sera traité aussi bien au premier degré et deuxième degré. Je ne sais pas si en matière administrative, on a un particularisme. On a cette exigence de trancher par jugement séparé ou pas. Non. Ou bien c'est les deux et il faut garder l'ensemble pour un appel. Contenons donc l'ensemble.
Mais je crois que ça a été souligné ce matin par madame la présidente de la Cour administrative d'appel. Elle a dit que sur la régularité du jugement, parfois on passe relativement vite parce que il n'y a pas de moyens qui critiquent la régularité de ce jugement dans les requêtes, et donc comme il n'y a pas lieu d'y répondre de manière explicite, sauf moyen d'ordre public, mais enfin, les moyens d'ordre public sur la régularité du jugement, c'est que vraiment, les juges de première instance ont fait n'importe quoi. Enfin, c'est des trucs... alors certes, c'est pas en fonction de la gravité, mais enfin, c'est quand même très embêtant. Non, il n'y a pas... vous pouvez regarder des arrêts rendus en appel par les cours administratifs d'appel. Bien souvent rien, en fait, sur la régularité du jugement, ou très peu. C'est très rare qu'on... Si jamais il y a les deux parties enfin, si jamais les deux choses sont évoquées, les deux objets, ben, il y a la régularité puis le fond, mais en réalité, c'est très souvent uniquement le fond. Hein. Enfin, voilà. Bon, d'où le fait qu'on puisse, à mon avis, pas aller vers une conception du juge d'appel qui serait un juge uniquement de la régularité du jugement. Je pense que c'est, en tout cas, en l'état, très peu probable. Voilà.
Si je peux me permettre, en fait, il n'y a pas du tout le même enjeu en appel qu'en cassation, parce qu'en appel, on peut apporter des pièces nouvelles, on peut apporter des... Alors, sauf hypothèse de cristallisation qu'il ne serait pas, mais là, pour l'instant, on n'a pas... on peut apporter des moyens nouveaux qui se rattachent à la même cause juridique. Donc, en fait, la critique du jugement, quelqu'un qui se bornerait à critiquer le jugement... ça ne lui donnerait pas satisfaction au fond, finalement, de manière certaine. Donc le débat devant nous, il y a moins d'enjeux qu'en cassation, où si on obtient l'annulation du jugement de la cour d'appel, on va pouvoir avoir un rejugement en appel, et y compris apporter des éléments au-delà de ce que l'on pourrait apporter sans doute en cassation. Et nous, d'ailleurs, très souvent, on ne va pas statuer sur la régularité du jugement, si finalement on donne satisfaction à la personne qui l'invoquait. Dans ce cas-là, on lui donnera satisfaction au fond et on ne l'évoquera pas. On est dans des logiques qui sont quand même très différentes. C'est d'ailleurs là que l'on voit bien qu'on est dans un rejugement de l'affaire, principalement.
Il y a un système particulier pour déterminer la compétence au sein de la juridiction administrative, et qui est un système très efficace. Vous saisissez n'importe quelle juridiction administrative. Si elle a un doute sur sa compétence, elle transmet immédiatement au président de la section du contentieux, qui règle ça par une décision non susceptible de recours et qui désigne la juridiction. Et ça, c'est un système qui a fait preuve de son efficacité. On n'a pas d'équivalent, malheureusement, en matière judiciaire. On a perdu beaucoup de temps, souvent, en matière judiciaire. En matière administrative, ce qui peut arriver, c'est qu'on passe des années de procédure et on arrive devant le Conseil d'État qui vous dit « mais non, ça ne relève pas du Conseil d'État, ça relève de la juridiction, ça relève pas de la juridiction administrative, ça relève de la juridiction judiciaire.
Oui, » oui, on élève le conflit parfois.
Voilà.
Oui, il n'y a pas de problème de compétence comme dans le judiciaire.
Non.
C'est ça, c'est réglé autrement. Donc on n'a pas ce problème de l'appel d'un jugement sur la compétence, puisqu'il n'y a pas de jugement sur la compétence. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire dans le contentieux judiciaire. Il faudrait supprimer les incidents de compétence, faire si possible des renvois par mesure d'administration judiciaire, mais ce n'est pas toujours possible, ou trouver des solutions plus rapides et plus efficaces pour supprimer ce contentieux sur la compétence. Mais entre un tribunal de commerce, un conseil de prud'homme et un tribunal de grande instance, si vous voulez, les enjeux sont tellement différents qu'il faut quand même des instruments pour répartir les matières.
Et parfois, ça touche le fond, savoir si un contrat de travail...
Oui, c'est la matière qui détermine la compétence d'attribution. Donc là, c'est difficile de faire un renvoi purement administratif par une mesure d'administration judiciaire. Ça paraît compliqué, en tout cas.
Peut-être une petite question. Et évidemment, peut-être d'abord remercier les différents intervenants. En fait, sur la question de convergence des méthodes au niveau des juridictions, que ce soit de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, il y a l'hypothèse de la Cour d'appel de Paris qui intervient comme juge de recours en matière de recours contre les décisions des autorités de la concurrence et des autorités de régulation, qui fait que parfois on a des décisions dans lesquelles elles statuent sur la légalité interne et la légalité externe. Du coup, c'est pas une convergence qui s'exclut immédiatement, et il y a des questions pour lesquelles elle emprunte un peu des méthodes au juge administratif.
Oui, mais parce que c'est un contentieux administratif, donc bon, c'est un bloc de compétences. Oui.
Il nous donnerait les étrangers, c'est ça. Oui, le Conseil d'État aimerait bien disposer des recours en matière d'autorité de la concurrence dans ce domaine-là. C'est une autorité administrative indépendante.
Oui. D'ailleurs, sa répartition à la Cour d'appel de Paris, c'est législatif. Hein. C'est pour créer un bloc de compétences, pour pas qu'il y ait justement... Voilà. Ce qui a permis